Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Marie-Noël Tranchant, Dominique Borde, Bernard Medioni, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Christophe.
Notre émission est un peu spéciale, nous n'allons évoquer de l'actualité qu'un seul film, le Marcello Mio de Christophe Honoré. Et puis je vous propose de consacrer le reste de l'émission à un coup de chapeau à Marcello Mastroianni, le vrai. 145 films
le
quand même.
Le unique, 145
c'est un peu moins que C'est un peu moins que Depardieu.
C'est moins que Depardieu, oui.
Le
coup de chapeau et le mot, absolument.
Salut l'artiste, comme l'un de ses films d'Yves Robert.
Salut l'artiste, oui.
Alors, Marcello Mio a obtenu un beau succès à Cannes. Oui. Nous écoutons la bande-annonce. Allez.
C'est incroyable. Qui t'a fait ça? C'est pour des photos?
J'ai encore rêvé de mon père cette nuit.
Je n'ai plus pu me réveiller.
C'est comme s'il me hantait. Enfin non, plutôt c'est comme si c'était moi qui étais devenu le fantôme de mon père.
Il te manque, c'est tout.
Sans moi, le monde peut bien tourner.
Mais Kira, tu peux m'expliquer ce que ça t'apporte de faire ça?
Ben, ça me rend heureuse.
Dis-toi qu'elle est comme une somnambule. Et... faut pas la réveiller brusquement.
Dure toute la vie.
Bonjour Nicole.
Vous connaissez Marcello?
C'est quoi ces conneries, Kira?
Marcello. Nicole, c'est Marcello, attention.
On était heureux ici?
Oui.
It's very nice, it's very nice.
Immagina la locandina. Marcello Mastroianni e Fabrice Lucchini nel nuovo film di Nicole Garcia.
Arrête, et puis enlève ça.
Will you be back from Rome soon?
Ça te rappelle rien? J'ai déjà joué cette histoire au cinéma, Marcello.
Non è Marcello. Ci dica la verità. Vogliamo la verità, no?
J'étais tellement heureux de t'avoir rencontré, tellement fier.
On est d'accord que Marcello n'est pas Marcello.
Mais alors chérie, qui te dit que Lucchini c'est Lucchini?
C'est la sixième fois que Chiara Mastroianni tourne avec Christophe Honoré.
Oui.
Et voilà.
Et voilà.
Alors, qu'avez-vous pensé de ce film?
Pas forcément beaucoup de bien. Pas du mal non plus, parce qu'il y a Marcello en arrière-plan, et ça...
C'est une histoire de famille.
C'est une histoire de famille, oui, oui. Bien sûr, mais c'est la pochette surprise, sans vraiment surprise, sans beaucoup de surprise. Sinon, la ressemblance troublante entre Chiara et son père, dans des attitudes, des mimiques, elle joue beaucoup là-dessus, et c'est vrai que ça, c'est assez troublant, et on a presque l'impression de le revoir à certains moments. Maintenant, c'est aussi un film de famille, c'est ça, avec sa mère, Catherine Deneuve, et ses deux anciens compagnons, Melville Poupeau et Benjamin Biolay. Donc, on feuillette l'album, tout le monde est content, tout le monde se fait un peu plaisir, mais on se demande où ça va et pourquoi.
Oui, c'est ça, c'est se faire plaisir.
C'est faire plaisir.
Alors, est-ce que ce plaisir
est partagé,
transpire, voilà.
Voilà, ça, j'en doute un peu. Bon, voilà, on est entre soi en prenant les spectateurs à témoin, c'est à la fois agaçant, inutile et émouvant, à cause de Marcello. Voilà, parce qu'on peut penser à lui, puis quand on l'admire, moi ce qui est mon cas, je trouvais ça un peu troublant tout de même, mais ça reste quelque chose, un divertissement comme ça, transcendé par la nostalgie d'un acteur qui est mort en 96.
À l'âge de 72 ans, d'un cancer du pancréas.
Oui, exactement. Oui. Et c'est d'abord lui qu'on regrette finalement. Alors la seule vertu du film, c'est ça, c'est qu'on se dit... Il est mort, mais il est toujours là. Voilà, c'est la seule vertu que je vois à ce film. Pour le reste, bon, c'est une histoire de famille qui ne nous concerne pas tellement. Bon.
Moi, je dirais, il est mort et il est toujours aimé.
Bien sûr. Ah, mais oui, d'ailleurs,
c'est cet amour qui transparaît.
Télérama avait fait comme titre « Nous nous sommes tant aimés
oui. »,
en prenant un titre de film dans lequel il ne jouait pas, d'ailleurs.
Il fait une apparition dans son propre rôle,
oui,
dans
oui, «
Nous nous sommes tant aimés ».
Très peu de temps.
Oui.
Et, bon. Mais c'est tout à fait ça, oui.
Marie-Noël Tranchant.
Oui, c'est quand même un échafaudage étonnant. On part de la fontaine de la place Saint-Sulpice, et on s'aperçoit que c'est un tournage de film, et Chiara joue Anita Ekberg. Et c'est la fontaine de Saint-Sulpice qui joue la fontaine de Trévi. Donc on est en plein tournage, et là-dessus, Chiara rentre chez elle, elle s'évanouit, sa mère arrive, donc retour à la réalité, entre guillemets. Sa mère arrive, Elle s'évanouit, elle dit à sa mère, tu vois pas que j'ai la tête de papa? Et Deneuve répond, très pragmatique, toujours avec sa voix épatante, oui, mais il y a de moi aussi. Donc c'est ce mélange, et ensuite on est dans un casting, la réalisatrice, alors là c'est typiquement le microcosme maniéré du cinéma. Ah oui. Oui. Donc Nicole Garcia prépare un film, auditionne en quelque sorte Chiara Mastroianni en espérant qu'elle sera plus Mastroianni que Deneuve. Donc c'est ce mélange aussi qui se fait dans la tête de Chiara Mastroianni et qui va peu à peu s'identifier à son père et devenir, comme on l'entendait dans la bande-annonce, je crois que je suis devenue le fantôme de mon père. Et à partir de là, elle revêt son costume. Donc on entre dans le film par une cascade de micro-événements, soit du cinéma, soit de la réalité, qui pousse l'héroïne, Chiara, à se prendre pour Marcello et à entrer dans le passé de son père, aussi bien son passé de père que son passé d'acteur à travers les films. C'est très habilement écrit, c'est subtil, et l'alchimie des personnages, du fantasme et de la réalité, comme dans Nuit blanche de Visconti, et cité après la Dolce Vita, ça devient un jeu extrêmement sophistiqué. Mais il faut reconnaître que Christophe Honoré a beaucoup de talent, à la fois d'écriture et de mise en scène. C'est une jonglerie, c'est un film à transformation, une jonglerie brillante, vraiment, où il y a beaucoup de talent, et pleine d'allusions et de citations, finement tissées. Mais c'est une sorte d'échafaudage extérieur, très arachnéen, de plus en plus sophistiqué, compliqué, et finalement on reste extérieur. On peut admirer le jeu, la finesse, la subtilité, mais on ne quitte pas le microcosme du cinéma, le cinéma comme famille, à la fois réelle et symbolique, et milieu culturel, avec ses connivences, ses tics, ses clins d'œil. Donc il y a un côté très cérébral, et en ce sens, le film m'a rendu presque triste, nostalgique en tout cas, du grand cinéma italien si magnifiquement incarné par Marcello Mastroianni, c'est-à-dire capable d'un naturel et d'une profondeur et de s'enfoncer dans les plis de la mémoire et du subconscient et de jouer avec tout ça d'une façon très très humaine. Là, et là, c'est très cérébral.
Là, on est dans la deuxième partie de l'émission déjà.
Mais ça m'a manqué, voilà. Ça m'a manqué beaucoup.
Oui, moi je suis quand même très mitigé, même si, oui, c'est un film qui a certaines qualités. Alors, bon, l'interprétation, mais ils sont à peu près tous des acteurs chevronnés, sauf Benjamin Biolay. Et c'est vrai que celui qui domine l'interprétation, selon moi, c'est Fabrice Luchini. Parce qu'on le voit avec une humanité ici, et presque une certaine forme de gentillesse. Alors vous allez dire, bien sûr, c'est un personnage, bien sûr, tout ça est écrit, bien sûr, il n'y a pas une once d'improvisation. Mais c'est vrai que là, on le voit sous un angle assez rare au cinéma. Et je trouve qu'il domine assez nettement l'interprétation. Il y a un épisode qui est au-dessus des autres, c'est l'épisode de la séquence d'émission de télévision en Italie. Parce qu'à la fois, il y a une verve satirique qui est extrêmement acérée, extrêmement juste. On retrouve d'ailleurs une allusion à Ginger et Fred de Fellini pour voir comment la télévision a mangé le cinéma italien. Et puis en plus, vous avez la présence de Stefania Sandrelli qui ravive toute la nostalgie à l'égard d'un cinéma italien qui est de nos jours fantomatique. Et c'est l'héroïne de Nous nous sommes tant aimés, qui a tourné en France aussi dans Police Python 357. Bien sûr, mais pas seulement. C'est une actrice exceptionnelle qui a tourné avec Marcello Mastroianni. Et c'est vrai que là, on retrouve ce grand cinéma italien. La chanson Di Marcello retient l'attention, même si elle n'atteint pas des sommets d'inspiration. Elle est composée par Alex Beaupin, mais perd sans fin un petit peu d'émotion à ce moment-là. On est vers la fin du film. Et le triple hommage rendu au père absent, à l'acteur éminent et à l'Italien scintillant plus que flamboyant, parce que flamboyant c'est plutôt Vittorio Gassman, mais l'Italien nonchalant, scintillant qui est Marcello Mastroianni, eh bien cet hommage se révèle attrayant parce qu'il est à la fois fervent, indéniablement, et élégant. Maintenant, les dialogues, moi je trouve non, rien d'exceptionnel. Je suis d'accord avec Dominique, mais en fait, en quoi consiste le but de l'œuvre ici proposée? Quelle est la finalité? Est-ce qu'il s'amuse? Est-ce qu'il y a vraiment une fille qui a voulu rendre hommage à son père, qui avait beaucoup tourné avec Christophe Honoré, elle lui a demandé, est-ce que c'est Christophe Honoré qui s'est servi d'elle pour adresser un coup de chapeau à Marcello Mastroianni? On ne sait pas. Ces oscillations continuelles entre la réalité passée, le présent fictionnel, finit par s'avérer quand même artificiel. La fin sur fond de baignade pugnace avec une ellipse qui agace boit la tasse. Que vient faire ce militaire britannique dont le rôle est quand même fort anecdotique? Et puis ce cheminement vers une chère ressemblance, recherché ici avec insistance, ne s'apparente finalement qu'à une errance sans aisance, peut-être vers une simple quête des apparences. En fait, ici, il y a à boire et à manger, peut-être parce qu'il y a huîtres et demi.
Ah ben voilà, c'était sous les applaudissements du public. Alors, maintenant parlons de Marcello.
Ce qu'il a représenté dans le cinéma italien et dans le cinéma total. Ben, entre le néoréalisme, le sourire et les larmes du cinéma italien des années 60, Mastroianni a glissé la silhouette d'un séducteur nonchalant, Latin lover, dont on a souvent qualifié un peu facilement, ça l'agaçait d'ailleurs, élégant et désabusé, parfois ridicule, comme dans Divorce à l'italienne, comme dans Le Pigeon, qui va le lancer, qui va le faire connaître. Il a un rôle de second plan dans Le Pigeon, mais on le remarque un petit peu, et souvent prisonnier des apparences, toujours omniprésent, comme le séduisant Arlequin, une comédie dramatique qui s'éloignait des stéréotypes pour imposer un personnage à la fois hors du temps, dans la Dolce Vita ou dans 8 et demi, car il est hors du temps dans 8 et demi particulièrement, et terriblement contemporain. L'homme incontournable des incertitudes du monde et des artifices de la société, un séducteur qui n'a cessé de mettre en doute sa propre séduction. Et là, il y a le bel Antonio qui est très important, parce qu'il avait cette étiquette de séducteur, et il joue dans le film de Bolognini un impuissant. Et on en a beaucoup voulu pour ça. Le film est remarquable.
Et les Siciliens l'attendaient. Exactement, en disant un Sicilien ne peut pas, être impuissant. Et donc il l'attendait à la sortie du restaurant pour lui casser la gueule.
Il était réellement tombé amoureux de Claudia Cardinale pendant le tournage.
Ben oui, voilà. Il tombe toujours amoureux de ses partenaires.
Voilà, mais elle n'a pas cédé, paraît-il. Mais ça, c'est pour l'anecdote. Mais le film est très beau, et ce qui est très beau, c'est qu'il a mis en doute son image, son étiquette dans ce film, qui est très juste, puisque toutes les femmes l'admirent, elle parle de ses longs cils, elle parle de son attitude, elle parle de tout. Il se marie, il aime tellement sa femme qu'il ne peut pas lui faire l'amour. Donc c'est un loupé. Et ce loupé, il le prend en charge avec Bolognini d'une façon assez courageuse. Oui. C'est assez remarquable, Bel Antonio, pour ça.
Marie-Noël.
Oui, c'est surtout, je trouve, pour moi, alors évidemment, sa carrière magistrale, mais une belle patte humaine. Mais vraiment extraordinaire, à la fois, je dis, des dessins pâtes humaines, parce que y a la profondeur, la souplesse, cette espèce de neutralité, au départ très plastique, qui lui permet de tout être, plus que de tout jouer. D'être vraiment très naturellement et profondément ces personnages, d'entrer dans la vie, dans la profondeur de la vie, sa douceur aussi, sa modestie, car il n'oubliait jamais ses origines modestes. Il n'était pas du tout, comme l'a dit Bernard tout à l'heure, c'était pas un flamboyant. Et dans la palette des acteurs italiens si volontiers exubérants, extravertis, etc., lui est au contraire très discret, très modeste, très humble, avec un clin d'œil, car il en joue aussi. Il n'est pas italien pour rien. Il sait jouer de tout. Mais Et quand il, à propos du bel Antonio, il disait lui-même que, comme ça venait après la Dolce Vita, il voulait
son image.
Surtout ne pas garder une étiquette et ne pas être
Écoutons, si vous le voulez bien, la bande-annonce du Pigeon, 1958.
Allora andiamo bene.
Proietti mio, io al massimo te posso fare del minimo.
Ma che stai a fare? Ho capito. Tu non basti più. Ce vuoi il sostituto. La pecora. Hai capito?
Perché ci sono da guadagnare 100 carte. Deve andare in galera al posto di un altro. Poi roba di pochi mesi, sai.
Ma se sono pochi mesi, perché non ce li fa lui?
O perché gli è capitato uno scopo sensazionale.
Ci vorrebbe un incensurato.
Un incensurato?
E a chi lo conosci?
Uno ci sarebbe.
Un momento. Certo, lo scopo lo facciamo insieme, no? Tutti quanti.
Preparare tutto prima, calcolare scientificamente.
Dinamite!
La scettuta dentro al petto!
Ma che scamato!
Che vedi là?
Allora, il venez un peu de nulle part, parce qu'il avait commencé par faire des études de dessinateur technique. Il avait travaillé pour les municipalités de Rome, Florence, et puis il s'enfuit pour éviter d'être muté en Allemagne pendant la guerre, et après la guerre seulement, il commence des études de théâtre. Et il vient du théâtre, c'est-à-dire que c'est au théâtre qu'il va rencontrer les grands rôles, Shakespeare notamment, et puis c'est là où il va rencontrer Fellini, il va...
Et Visconti,
surtout, qui va le...
Qui lui fera avouer l'étranger. Oui. Il n'a pas été son meilleur film.
Et les Nuits Blanches, qu'on voit dans le film Marcello.
Et donc on a quelqu'un, au départ, de très théâtral. Et ça, c'est très intéressant, parce que toute sa technique vient du théâtre. C'est pas quelqu'un de cinéma. Et on a eu... Donc, c'est Les Pigeons, en 1958. On a entendu quelques extraits qui vont vraiment le lancer. Racontez-nous, Bernard.
Oui, moi, je vais me permettre de vous... Pas vous reprendre, mais compléter ce que vous dites. Dire que Le Pigeon, le lancer...
Je n'étais là que pour vous introduire.
Je suis très flatté. Mais ce n'est qu'une... c'est un succès presque international, Le Pigeon. Mais il y a eu des films en Italie qui l'ont déjà fait connaître.
Ouais.
Notamment deux films de Blasetti, Alessandro Blasetti. Dommage que tu sois une canaille, où il a le deuxième rôle. Et ce n'est pas lui la canaille, c'est Sophia Loren, contrairement à ce qu'on pourrait penser.
Leur première rencontre.
Absolument. Et ensuite, La Chance d'être femme, encore avec Sophia Loren et Charles Boyer. Et là, ce sont deux films où on le remarque vraiment dans le cinéma italien. Le Pigeon vient un petit peu après. La Chance d'être femme, c'est en 56.
D'accord.
Dommage que tu sois une canaille, je crois que c'est en 54. Donc, Le Pigeon arrive un peu plus tard. Et puis après, c'est la consécration avec la Dolce Vita. Mais moi, ce que j'aimerais retenir en deux mots de lui, c'est un personnage où la folie... Et là, la folie, alors Ferreri l'a très bien utilisé, 6 fois quand même. Lisa, la femme chien, Catherine Deneuve, Lisa, La Grande Bouffe.
Lisa, c'est le premier film avec Catherine Deneuve. C'est là où ils se rencontrent.
Et ils se tournaient en 71, sorti en 72. La Grande Bouffe, Vertige de Mauro Bolognini, où il fait un psychiatre qui est lui-même sur le fil du rasoir pendant les années fascistes. On est dans les années 30. Il donne la réplique à Françoise Fabian. Léo Zolas de John Boorman, il est aussi tout à fait excentrique. Et Drame de la jalousie, il finit aussi dans un état psychologique un petit peu perturbé. Donc, on a l'image d'un homme très élégant, très distingué, mais il faut pas perdre de vue que l'excentricité, voire la folie, il l'incarne très très bien. Et puis, il faut pas oublier qu'il est très présent aussi à partir des années 70 dans le cinéma français. Ça n'arrive qu'aux autres, le très beau film de Nadine Trintignant, Salut l'artiste, film délicieux d'Yves Robert. On va le voir quand même dans plusieurs le film plus raté de Jacques Demy, l'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la
et vie privée
et vie privée 12 ans avant, vous avez raison Marie-Noël, face à Brigitte Bardot. Donc c'est vrai que il n'est pas seulement un acteur italien, il devient un acteur international, puisqu'il finira même avec Robert Altman, un de ses derniers films c'est Prêt à porter quand même. Donc il a un rayonnement formidable. Mais Dominique a dit quelque chose qui me semble très juste, c'est qu'il y a le mythe mais sa réfutation. C'est-à-dire il y a l'amour mais l'impôt puissance dans le film Le Bel Antonio. Il y a le personnage qu'on pourrait dire courageux, mais très lâche dans Les Yeux Noirs, le chef-d'œuvre de Mikhalkov. Personnage haut en couleur, mais dérisoire, dont touche pas à la femme blanche. Donc, il ne s'enferme pas dans un personnage. Et je dirais juste une dernière chose. 4 films de Dino Rizzi et 3 films exceptionnels. La femme du prêtre, Rapta l'italienne et le dernier film qui est Fantôme d'amour, qui est à mon avis l'un peut-être le plus grand chef-d'œuvre de sa carrière avec Romy Schneider, où il part à la recherche de cette femme et il a incarné beaucoup l'homme seul italien. Mmh. Et ben peut-être que la solution c'est de partir à la recherche d'un fantôme.
Mais oui, parce que aussi. La mort est très présente. Hein. Ah, oui. La mort est très présente dans ce film et effrayante même.
Ah oui. Parce que film fantaisiste, vraiment fantaisiste.
Ah oui, absolument.
Et en même temps poignant et élégiaque, mélancolique.
Il y a une fois sur son humilité, j'avais vu il y a quelque temps une interview de lui dans les années 70, comme ça on parlait de sa séduction, ce qui l'agaçait royalement, ce qu'on peut comprendre. Il a dit oui, mais regardez Gérard Philippe. Donc il y a toujours mieux. Et en effet, Gérard Philippe, qui était très beau, qui est mort à 38 ans.
Mais beaucoup plus jeune.
Il était plus jeune.
Mais oui.
Mais voilà, s'il avait eu un modèle ou s'il avait quelqu'un à admirer, c'était au-dessus de lui et c'était Gérard Philippe.
Oui.
Donc il y avait beaucoup d'humilité par rapport, justement, c'est ça.
Et aussi par rapport au metteur en scène. Il disait toujours, l'important, c'est le metteur en scène. Nous, les acteurs, nous sommes des instruments bien accordés, vibrants, c'est le metteur en scène qui fait tout. Il disait, j'ai eu la chance de tourner, et c'est vrai, avec des très grands metteurs en scène, tous les grands du cinéma italien, en effet.
Alors, ça n'arrive qu'aux autres. Autre rencontre de Marcello et Catherine, de Mastroianni et de Neuf, sur une chanson de Michel Polnareff.
Parole de Jean-Loup d'Abadie.
Parole de Jean-Loup d'Abadie, c'est merveilleux. On l'écoute.
La petite bête jouait au jardin et j'avais à terre. Il n'y aura plus d'enfance au jardin. Un oiseau de plus, un oiseau de moins. Tu sais la différence, c'est le chagrin. La petite bête jouait au jardin. C'était une fête.
J'ai eu le privilège dans les années 80 d'interviewer Sophia Loren et j'ai passé une heure et demie chez elle avec elle. Elle m'a parlé de Mastroianni et elle m'en a parlé comme d'un frère. Oui. Elle m'a dit que c'était comme un frère pour moi parce qu'ils ont beaucoup tourné ensemble.
Une journée particulière.
Voilà. Oui, une journée particulière qui a été
c'est remarquable.
Somptueux.
Mais j'avoue que quand on entend Michel Polnareff, on a encore des frissons de Mastroianni, de Neuve de cette grande époque de cinéma qui est une époque de séduction, qui est une époque de bonheur finalement.
Oui, parce que ça mêlait justement et la comédie et le drame et ça le mêlait.
C'était tragique, ça n'arrive qu'aux autres, parce que c'est quand même la mort d'un enfant.
Dans le cinéma italien d'avant, c'est ça. Il a représenté ce que Gassman, Guido Gnazzi et les autres Sordi ont représenté, c'est-à-dire ce va-et-vient entre le drame et la comédie. Où on arrivait à dire quelque chose et à exister. Et il l'a représenté très bien. Avec plus de modestie que les autres, c'est vrai, plus d'effacement. Mais même La Grande Bouffe, que moi j'aime bien, qui a fait scandale.
Avec Ugo Tounazzi, justement.
Oui.
Et lui.
Piccoli était très ami avec Piccoli.
Et puis Piccoli et Noiret. Et c'est Marco Ferreri. Et puis Andrea Ferreol. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et ça a eu un scandale terrible à Cannes.
Terrible à Cannes.
Or, c'était un film
qui. C'était encore dans l'ancien palais du festival.
Et c'était un film qui était quand même terriblement précurseur.
73.
Ouais.
Un succès retentissant.
Et un succès retentissant. Est-ce que ça a vieilli aujourd'hui? Est-ce qu'on pourrait revoir
C'est très intéressant. C'est très intéressant quand même.
Ferreri, oui, il a toujours choqué. Il a toujours voulu provoquer et choquer. De Dillinger est mort, elle touche pas la femme blanche. Et en même temps, il y avait un côté visionnaire chez lui.
Ah, là, oui.
C'est le suicide par la bouffe, c'est le suicide par le plaisir, au fond, c'est ce qu'il nous raconte. Ouais.
Eh bien, merci. Merci à vous trois, Marina Tranchant, Dominique Bond et Bernard Bellioni. Je ne pense pas, mais
j'aurais voulu citer une merveilleuse phrase de Mastroianni. C'était chez Thierry Ardisson. Il dit que les meilleurs politiciens sont les acteurs, parce qu'ils savent se mettre ensemble, d'accord, ils sont d'accord pour être ensemble, pour quelque chose de supérieur, qui n'est pas lié aux intérêts matériels.
Et bien c'est sur cette belle idée que nous allons nous quitter. Merci Cédric Cobat pour la réalisation, François Dieudonné, Philippe Malpeche, Camille Meyer, Faustine Clary pour la réussite technique de notre rendez-vous. Demain jeudi, je recevrai Pierre-Henri Salvati pour son livre « Dévoilement du Messie », un livre qui m'a passionné. Vous comprendrez pourquoi demain. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et je vous embrasse.